Deutsche Welle Magazine Santé.
Une personne sur sept dans le monde souffre d'un handicap. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Navi Pillari, a appelé à favoriser leur intégration dans la société. Le handicap a plusieurs facettes. Certains proviennent de maladies ou sont innés, d'autres de situations de guerre. C'est le cas en Afghanistan où la Croix-Rouge a mis en place un centre pour les victimes. Nous nous y rendrons avec notre correspondant à Kaboul. Et puis une réussite spectaculaire. Un vaccin semble venir à bout de la méningite en Afrique. Un espoir réel pour plus de 400 millions de personnes qui sont menacées par cette maladie. Et pour nous expliquer ce succès, nous entendrons la directrice du programme Méningite. Je vous souhaite la bienvenue. La ceinture de la méningite, comme on dit depuis les années 60, s'étend du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie et à la Somalie à l'est, soit 26 pays d'Afrique subsaharienne. Depuis une centaine d'années, des épidémies de méningite ravagent à intervalles réguliers les populations de ces régions, notamment les jeunes de moins de 30 ans. La plus virulente a sévi entre 1996 et 1997. 250 000 personnes ont été atteintes, dont 25 000 cas mortels. Un vaccin, le Menafrivrac, dont nous vous avions parlé ici même il y a 2 ans, pourrait changer la donne. Des résultats spectaculaires au Tchad montrent une efficacité de plus de 90%. Marie-Pierre Preciosi, directrice du projet vaccin méningite, que j'ai jointe au téléphone à Genève, explique la particularité de la méningite.
Ces épidémies sévissent uniquement pendant la saison sèche. Lorsque les pluies arrivent, l'épidémie cesse et elle reprend l'année suivante dès que la saison sèche redémarre.
Alors, il y a une explication médicale à cela ?
Oui, tout à fait. La bactérie qui cause la maladie de la méningite, le méningocoque, en fait, est portée dans la gorge des personnes saines, c'est-à-dire que à peu près 15 à 20% de la population, tout un chacun, nous pouvons porter cette bactérie dans notre gorge sans être pour autant malade. Et lors de la saison sèche, dans cette zone du monde, il y a un vent très sec qui souffle, qui s'appelle l'harmattan. Il y a beaucoup de poussière et ça crée des espèces de brèches au niveau de la muqueuse de la gorge et du pharynx qui permettent à la bactérie de traverser la muqueuse et de passer au niveau des méninges qui sont les enveloppes qui entourent le cerveau et de donner là suite à une méningite.
Quels sont les risques de cette maladie ?
On a une gêne à la lumière, des maux de tête, on peut avoir des convulsions et puis on peut rapidement sombrer dans un coma. Et puis, décédé en l'absence de traitement antibiotique, soit survivre, mais avec une chance d'avoir des séquelles à type de surdité ou de retard mental, ou même de perte de membres.
Donc, on l'a compris, une maladie très grave si elle n'est pas traitée. Alors, vous avez lancé un nouveau vaccin, parce que jusqu'ici, je crois qu'il existait un vaccin. Pourquoi ce nouveau vaccin ?
Au milieu des années 90, il y a eu des épidémies absolument majeures dans la ceinture de la méningite et les pays se sont tournés vers l'Organisation mondiale de la santé pour les aider à trouver une solution. Il se trouve qu'à l'époque, on avait déjà un vaccin qu'on appelle le vaccin polysaccharidique qui permettait de répondre aux épidémies, mais ça ne suffit pas parce que quand on répond aux épidémies, on arrive toujours un peu trop tard et en préventif, ce vaccin ne marche pas bien. Parce que d'une part, il n'est pas actif chez les plus petits, les moins de 2 ans, on va dire. Par ailleurs, sa durée d'action est très brève. Au bout de 2 ans, 3 ans, grand maximum, on n'a plus du tout de protection. Et il n'interrompt pas du tout la transmission. Ce qui fait que seules les personnes vaccinées sont protégées, mais tous les autres autour sont susceptibles encore de recevoir la maladie s'ils sont en contact avec des porteurs du microbe.
Vous avez traité des enfants au Burkina Faso avec le nouveau vaccin qui s'appelle le Menafrivrac. Qu'avez-vous constaté ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par introduire le vaccin. Le premier pays a été, comme vous l'avez dit, le Burkina Faso à la fin de l'année 2010. Et là-bas, on a montré que juste après l'introduction du vaccin, il n'y avait plus de cas. et par ailleurs n'avait plus de porteur du microbe dans la gorge. Néanmoins, à ce moment-là, en 2010-2011, il se trouve que la méningite était à un niveau très faible dans cette zone de la ceinture. Donc, il n'y avait pas de conclusion définitive.
Vous êtes aussi intervenu au Tchad, et là, c'est la surprise.
Ce qui s'est passé au Tchad, c'est que le pays a décidé d'introduire le vaccin en plusieurs phases. Et donc, en 2011, il y a eu une certaine partie du pays qui avait été vaccinée, alors qu'une autre partie n'avait pas encore été vaccinée. Et juste après cela, dès le début 2012, est survenue une épidémie majeure due au méningocoque A, contre lequel le vaccin protège. Et donc ça a créé de facto une situation expérimentale qu'on n'attendait pas, mais qui finalement a permis de montrer que dans les districts qui avaient vacciné, il n'y avait plus du tout de cas de méningite. Et non seulement cela, il n'y avait plus personne qui portait la bactérie, alors que dans les districts où la vaccination n'avait pas encore eu lieu, il y avait de très nombreux cas et de très nombreux porteurs de la bactérie.
Marie-Pierre Preciosi, directrice du projet Vaccin Méningite mené par l'OMS et l'ONG PATH. Une avancée spectaculaire donc, puisque le vaccin est capable d'interrompre la maladie. Mais il faut encore être prudent, comme pour toute nouvelle avancée scientifique. En Afghanistan, les conflits ensanglantent le pays depuis plus de 3 décennies. Les insurgés talibans combattent toujours le gouvernement de Kaboul et les armées étrangères qui se retirent l'an prochain. Dans leur dernier rapport, les Nations Unies s'inquiétaient de l'augmentation du nombre de victimes civiles dans le pays. Selon l'ONU, par rapport à l'année précédente, l'augmentation représente 23%. Les 3/4 ont été touchés par des groupes d'insurgés qui combattent le gouvernement de Kaboul. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, en Afghanistan, a ouvert en 1988 un centre pour accueillir ses victimes. C'est le reportage à Kaboul de notre correspondant Nicolas Ropper.
Fahim discute avec un physiothérapeute du centre. Il dit avoir 40 ans et a perdu une jambe il y a 3 ans dans des combats dans la province de Parwan, située dans le nord de Kaboul. Depuis, il marche avec une prothèse, une aide indispensable fournie gratuitement par le centre. Il vient aujourd'hui pour la faire changer.
C'est la deuxième prothèse que me fournit le centre. Là, le physiothérapeute vient de partir avec ma nouvelle jambe. Je suis arrivé il y a 3 jours et nous faisons des essais. Je dois faire des exercices. Je trouve qu'elle est trop petite, donc il va l'agrandir un peu. Si tout va bien, ce sera bon et je pourrai rentrer chez moi aujourd'hui. Ce centre est d'une grande utilité pour nous. J'ai eu une prothèse gratuitement ici. Sinon, je n'aurais pas les moyens de m'en acheter. Une prothèse doit coûter pas loin de 2 000 $. Je n'ai même pas cet argent, alors comment je peux faire? Donc ce centre est indispensable.
Des cas comme celui-là, Najmoudine Elal, le directeur de l'établissement, en voit passer tous les jours. 67% des patients qui fréquentent le centre sont des victimes du conflit. L'an dernier, près de 8 000 personnes ont été reçues. Le CICR leur fournit une prothèse et les accompagne.
Il y a 25 ans, en 1988, le CICR a ouvert ce centre de réhabilitation physique à Kaboul. Mais à l'époque, c'était uniquement pour les victimes de guerre. Ensuite, le CICR s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres handicapés. C'est pour cela que le centre est maintenant ouvert à tous les handicapés moteurs. On fait des prothèses, de l'orthopédie, on réapprend aux patients à marcher et on propose de la physiothérapie à ceux qui en ont besoin.
Le centre orthopédique a la particularité d'abriter un grand atelier où sont fabriquées les prothèses. Faites essentiellement de plastique, elles sont conçues non pas en série, mais sur mesure pour chaque patient. Cela permet une meilleure qualité car une prothèse mal ajustée aura tendance à s'abîmer plus rapidement. Mohamed Bouraki est le chef d'atelier. Après avoir habité plus de 15 ans en Allemagne, il est revenu en Afghanistan avec son expertise dans les machines-outils indispensables à la fabrication des parties métalliques des prothèses.
Nous nous trouvons en ce moment dans l'atelier du côté technique. Nous nous occupons de fabriquer une partie des prothèses pour les handicapés. Ensuite, les personnes peuvent commencer leur adaptation physique. Les gens qui travaillent ici sont tous sévèrement mutilés. Certains ont perdu une jambe, d'autres les deux. Nous voulons que les handicapés soient aidés par d'autres handicapés.
Car le volet réinsertion est primordial pour le CICR. Tous les employés, ils sont 600, du directeur à la femme de ménage, sont handicapés physiques, histoire de montrer que l'on peut être utile même avec une jambe artificielle. Nous pénétrons dans la section réservée aux femmes. Une grand-mère de 55 ans fait des allers-retours avec sa nouvelle jambe. Elle a été amputée il y a plus de 10 ans, mais s'est décidée à faire le trajet entre sa province d'origine et le centre seulement cette semaine.
À la fin du régime des talibans, j'ai marché sur une mine. J'ai perdu une jambe. Avant, j'empruntais des béquilles à une personne que je connaissais, mais à mon âge, je n'arrivais plus à me déplacer avec. Je suis donc venue ici et le centre m'a fourni une prothèse. J'ai perdu plusieurs de mes enfants, donc je dois travailler. J'espère que le CICR pourra m'aider à ouvrir une épicerie. Comme ça, je pourrai rembourser les gens à qui j'ai dû emprunter de l'argent. Ma situation financière est très compliquée en ce moment.
Le centre a mis en place un système de microcrédit. Il a profité à plus de 7000 personnes qui ont pu se lancer dans une activité. Des formations et des aides de recherche d'emploi sont aussi organisées, mais difficile pour un candidat handicapé de rivaliser avec un concurrent valide sur le marché du travail. Nicolas Roper à Kaboul pour la Deutsche Welle.
Avant de se quitter, sachez que la résistance microbienne aux antibiotiques touche au moins 2 millions de personnes aux États-Unis. Elle cause quelque 23 000 décès. C'est ce que viennent de constater les autorités sanitaires américaines, en cause une utilisation abusive des antibiotiques. Ce rapport met en garde contre le danger, évoqué également souvent par de nombreux médecins africains, de se retrouver un jour sans traitement efficace pour de nombreuses infections, ce qui provoque des complications critiques. Il rappelle que la lutte contre les microbes passe d'abord par la prévention, la vaccination et l'hygiène, notamment dans la préparation de la nourriture, et avec une mesure simple, se laver souvent les mains. C'est la fin de cette page médecine. Vous retrouvez la semaine prochaine Cécile Leclerc. Merci aux auditeurs qui nous écrivent. Si vous aussi avez envie de nous envoyer un courriel, je vous rappelle notre adresse français@dw.de, ou bien vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. En attendant, prenez soin de vous, où que vous soyez en Afrique et dans le monde.